Radio Kapi.
Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Au Nord Kivu, le tribunal militaire de garnison de Beni a condamné hier lundi 23 personnes à des lourdes peines allant de 5 à 20 ans de servitude pénale principale. La peine la plus lourde a été infligée à Kasereka Katrisha Judison alias Kaou, condamné à 20 ans de servitude pénale principale pour financement du terrorisme et actes de terrorisme. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré ce lundi l'université officielle de Mbujimayi. Ces bâtiments ultramodernes est salué par tout le monde. Mais pour protéger ces nouveaux bâtiments, le professeur Abbé Apollinaire Sibaka Sikongo dit faire face à trois grands défis à suivre dans quelques instants. La reconstruction et le développement de la RDC au menu de la 10e édition d'Expo Béton RDC. Le coup d'envoi des travaux de ce forum sera donné demain mercredi à Kinshasa. Pour en parler, Radio Kapi reçoit le promoteur d'Expo Béton, Jean Bamanissa Saïdi. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu, où le tribunal militaire de garnison de Beni a condamné ce lundi 23 personnes à de lourdes peines allant des 5 à 20 ans de servitude pénale principale. Jugées depuis 2 semaines, elles étaient poursuivies pour participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs, financement et actes de terrorisme. Elles ont été reconnues coupables d'avoir pris part ou apporté leur soutien aux attaques menées par les ADF dans les territoires de Beni, Lubero et Anituri. Les détails avec Martial Papimukeba.
La peine la plus lourde a été infligée à Kasereka Katrisa Judison, alias Kaou, condamné à 20 ans de servitude pénale principale pour financement du terrorisme et acte de terrorisme. Arrêté en 2018 à Beni pour la gestion d'un réseau de ravitaillement des ADF entre Butembo, Beni et Bunia, il avait été transféré à Kinshasa, où le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Gombe l'avait condamné en 2021 à 5 ans de prison. Selon la justice, après sa libération, en juillet 2023, à l'issue de sa peine, il s'était réinstallé à Bunia où il gérait un nouveau réseau de recrutement et de soutien logistique aux ADF dans la zone de Tutu, à une dizaine de kilomètres de la ville. Recherché activement par les services de sécurité, il a de nouveau été arrêté le 28 juillet 2025 et transféré à Beni. Lors de cette arrestation, plusieurs documents compromettants ont été saisis, dont certains prouvant ses liens récents avec les ADF, ainsi que des notes manuscrites détaillant les failles des services de sécurité pendant sa détention à Kinshasa. Beni, Martial Papimukeba, Radio Kapi.
Restons sur le dossier ADF. Le député provincial honoraire élu du territoire de Lubero a appelé hier lundi le gouvernement congolais à exiger l'extradition de Djamil Mukulu en RDC. Pour lui, le procès de l'ancien chef du mouvement terroriste ADF, accusé des crimes commis en RDC, devrait se tenir sur le sol congolais. Cela permettrait notamment aux victimes de se constituer partie civile. En Ouganda, après plus de 10 ans d'attente, le procès de Djamil Mukulu s'est ouvert la semaine passée devant la division des crimes internationaux de la Haute Cour de Kampala. On écoute le député honoraire Eze Kanendu, joint par Radio Okapi.
Djamil Mukulu était le principal fondateur des ADF qui massacre, viole, incendie les villages entiers, vol et pille nos ressources naturelles, ne saurait être jugé en Ouganda pour des crimes commis en RDC sans aucune constitution de la partie civile, sinon ça serait craché sur la mémoire de nombreuses victimes et survivants et du manque de respect au gouvernement congolais. La RDC étant en partenariat avec l'Ouganda dans les opérations militaires contre les ADF, et que certains capturés et rendus étaient remis entre la main de la justice congolaise pour y être attendus, il serait important d'exiger l'extradition de leur chef pour une confrontation, mais aussi permettre aux victimes et survivants des massacres qui réclament justice et réparation de faire valoir leurs droits.
En Ituri, pendant ces temps, 6 personnes ont été tuées, dont 2 enfants et 9 autres blessés. Plus de 1000 de déplacés ont fui les sites de Kasseni. C'est le bilan encore provisoire des affrontements survenus lundi matin entre les FARDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, la CRP, de Thomas Lubanga. Les activités économiques tournent au ralenti, malgré le calme précaire observé après la mise en déroute de l'ennemi par l'armée. Isaac Raymond Yopé pour plus de détails.
Des tirs sporadiques étaient encore attendus lundi soir à la périphérie de Kasseni après une nuit de violents combats entre les FARDC et les miliciens de la CRP. L'armée poursuit les ratissages de la zone pour traquer les combattants à des bandades vers la plaine du lac Albert. Selon des sources locales, 6 personnes ont été tuées lors de l'attaque, parmi elles 3 hommes, une femme déplacée et des enfants jumeaux. 9 autres personnes, principalement des déplacés, ont été blessées par balles. La plupart des déplacés ont quitté les sites des Mutanzike, CE39 et Wembley, qui abritait environ 5000 personnes. La psychose règne encore au centre commercial de Kasseni, où les habitants restent terrés chez eux. Les élèves ne sont pas allés à l'école, aussi bien à Tchoumia qu'à Kasseni. Les activités économiques demeurent paralysées. Les trafics sur le lac Albert entre la RDC et l'Ouganda, ainsi que sur l'axe Bunia-Kasseni, a timidement repris lundi soir. Plusieurs véhicules ont néanmoins suspendu leur voyage, craignant des embuscades tendues par les miliciens encore dispersés dans la zone. Bunia, Isaac Remoyo, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ce lundi l'université officielle de Mbujimayi. L'inauguration des nouveaux bâtiments de cette institution d'enseignement supérieur construit selon les standards modernes est saluée par les bénéficiaires, nous dit Esther Ndalafina dans ce reportage.
Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a visité les nouveaux bâtiments ultramodernes de l'université officielle de Mbujimayi. Le recteur de l'IOM a indiqué que cette université est passée d'un hangar de la honte à des bâtiments de la dignité. Confirmation de la professeure José Kapinga, doyenne de la faculté des sciences économiques et de gestion.
Nous avons évolué dans les écoles primaires. Je connais les effectifs avec lesquels nous avons commencé en tant que centre universitaire et après extension de l'ILU et aujourd'hui l'université officielle.
Pour protéger ces nouveaux bâtiments, professeur Abbé recteur Apollinaire Tshibaka dit faire face à 3 grands défis.
La restructuration de l'administration interne et du style global de gestion, la promotion de la culture de l'amour, de l'entretien et de la protection du patrimoine, l'agrandissement urgent du campus afin de répondre à la demande croissante d'inscription.
Willy Mouya, président de l'Assemblée provinciale, demande aux fils et filles de la province d'étudier à l'IOM.
Je demande à nos enfants d'étudier à cette université afin que leurs parents les encadrent. Ils n'ont plus raison d'aller ailleurs. Ils iront pour des recherches, pour des échanges avec d'autres universités. Mais l'université officielle de Mbujimayi nous suffit.
Signalons que plusieurs professeurs d'université ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit dans la province du Maniema. Inspecter et réceptionner les routes récemment réhabilitées, tel est l'objectif d'une mission mixte actuellement déployée dans cette province, composée des membres du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, des confessions religieuses et des organisations de la société civile. Cette mission inspecte les tronçons Kindu-Pangi et Kindu-Kailo. Ces routes ont été réhabilitées grâce aux fonds recueillis dans le cadre de la collecte des taxes conventionnelles initiée par le gouverneur des provinces il y a quelques mois. Les travaux menés par l'Office provincial d'entretien routier du Maniema ont débuté en janvier 2025. Florence Kizalunga, reportage.
Avec à sa tête le gouverneur de province, cette mission a pour objectif d'évaluer les travaux réalisés par l'Office provincial d'entretien routier du Maniema Operma au cours des 8 derniers mois. Ces travaux ont permis l'ouverture de plus de 400 km de route. Ils ont consisté en des opérations de débroussaillage, d'abattage d'arbres, de décapage et à la mise en place de certains caniveaux. Dans les territoires des Pangi, les travaux ont été effectués sur 4 axes principaux. Nyoka-Pangi, 88 km, Pangi-Lubi, les 88 km, Lubile Kalima 45 km et Kikungwa Misoke Lubilazia 37 km. Dans le territoire de Kailo, des axes ont été concernés. Benamboto Kailo 20 km et Lonyoma Pont Ulinzi 75 km. Ces travaux financés grâce à la taxe conventionnelle visent à désenclaver la province du Maniema. Comme vous le savez, en raison du manque de routes, cette province dépend en grande partie de la voie aérienne pour son approvisionnement. fonctionnement. Avec cette initiative du gouvernement provincial, de nombreux observateurs estiment qu'il s'agit d'une étape importante pour permettre à la province de se prendre en charge sans attendre systématiquement l'appui du gouvernement central. Depuis Pangui, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Rien ne va à la tête de la province de Maïndombe selon l'ASBL, Génération Consciente de Maïndombe, GECOMA. L'organisation dénonce une gestion marquée par l'opacité financière, l'absence d'initiative de développement, la privation de la liberté d'expression et de presse, le tribalisme ainsi que le non-achèvement du projet Elenge Longanzala. Ces griefs sont portés contre le gouverneur Lebonko Sokevani, accusé d'être à l'origine du blocage de la province. Écoutons les explications du coordonnateur de GECOMA, Darius Ntsai.
La province de Maïndombe est agonisante. C'est ainsi que nous avons conscientisé les députés provinciaux afin de la réanimer avant de prétendre à un certain miracle de la résurrection quand elle sera morte. La mégestion totale des gouverneurs de la province de Maïndombe que nous déplorons. Nous les reprochons de beaucoup de faits. D'abord, l'opacité, solitude et témérité de la gestion des finances de la province. Et nous les reprochons également de la légèreté et amateurisme au sommet de l'État. Et l'usurpation du pouvoir en défiant l'Assemblée provinciale parce qu'il est en train de prendre des décisions sans pourtant considérer et se référer à la première institution de la province qui est l'Assemblée provinciale. Tribalisation de son pouvoir, l'impayement des ministres et agents de l'État, privation de la liberté d'expression et de la presse, tout ça, c'est ça qui bloquait la province de Maïndombe, croyant qu'un chrétien pourrait changer des choses, alors que devant les billets des banques, les chrétiens ont préféré redevenir païens pour se servir au lieu de servir.
En réaction, le gouverneur de la province de Maïndombe, Lebonko Sokevani, rejette en bloc les accusations portées contre lui. Il dénonce une manipulation visant à ternir son image. Selon lui, la province du Maïndombe est sur la bonne voie et le projet Elenge Longanzala est une réussite, notamment à Inongo où plusieurs initiatives agricoles sont menées localement. On écoute le gouverneur Lebonko Sokevani.
Cette association-là, elle n'a pas de racines dans la province, elle ne reste pas en province. Le monsieur qui a signé, il est à Kinshasa, il n'est pas en province. Donc, déconnecté de toutes les réalités de la province. Parce que la province est sur les rails aujourd'hui. Les Maïndombe sont sur les rails. Notre projet, Elenge Longanzala, c'est un projet qui a porté des fruits quand on était au début là à Inongo. L'année passée, 2024, même les légumes venaient de Kinshasa, des tomates, piments et ciboules, oignons et tout comme ça, venaient de Kinshasa. C'est avec ce projet Elenge Longanzala qui a fait qu'aujourd'hui il y a abondance à Inongo. Donc c'est vraiment étonnant. Hein? Et c'est chaque fois qu'il est Maïndombe à une victoire qu'il y a des attaques pareilles. Il y a eu la situation des Bolobo où on a failli connaître des massacres. Comme il y a eu la victoire là-bas, les gens ont commencé à raconter du n'importe quoi, le gouverneur a détourné et tout comme ça, pour juste effacer en mémoire tout ce que l'on a fait à Bolobo. Il y en a même d'autres, je peux vous balancer. Quand maintenant on a intenté l'action judiciaire et après ils ont commencé à demander pardon. Donc ce sont des gens téléguidés, manipulés et qui font du n'importe quoi.
C'est un dossier signé votre serviteur. Le docteur Denis Mukwege demande au gouvernement congolais de réaliser sa promesse de mettre fin à l'impunité pour que les auteurs des viols en RDC répondent de leurs actes. Appel fait à l'occasion de la première projection du film Munganga, entendez par là celui qui soigne, au cours d'une soirée organisée ce dimanche à Kinshasa par le réseau citoyen Pona Congo, devant plusieurs personnalités et des milliers de personnes venues regarder ce film, le prix Nobel de la paix a plaidé pour que le monde puisse agir en arrêtant l'horreur et les atrocités commises en RDC. Jean-Désiré Kanyama, reportage.
Pour la productrice Cynthia Pinet, regarder ce film est un acte citoyen, un engagement à l'éveil des consciences.
Le fait de venir voir ce film et d'en parler, c'est déjà un acte citoyen et un engagement que, oui, moi je crois que le cinéma cinéma peut faire bouger les choses, ça c'est sûr.
Le docteur Denis Mukwege a demandé au gouvernement de réaliser sa promesse de mettre fin à l'impunité en RDC.
Que les Congolais prennent conscience que notre survie va dépendre de notre sursaut. Nous devons nous battre pour continuer à vivre, puisque ça fait plus de 100 ans que ce qui se passe avec le peuple congolais, c'est pour tout simplement une disparition tout à fait planifiée.
En réaction, le ministre de la Communication a rappelé l'engagement du gouvernement et son plaidoyer dans le cadre des génocides. Patrick Muyaya.
C'est aussi les lieux de rappeler notre engagement. Le président de la République en a encore parlé vendredi en conseil de ministres, que nos enfants soient informés de ce qui se passe et soient pleinement au courant du plaidoyer que nous menons, notamment dans le cadre du génocide.
Ce film a été réalisé par Marie-Hélène Roux et coproduit par Angelina Jolie en hommage au prix Nobel de la paix et pour faire entendre au monde entier le sens de son combat.
Actualité internationale.
Au sein des institutions européennes et dans les 26 capitales des autres États membres de l'Union européenne, la préoccupation vis-à-vis de la crise politique de la France est tangible, mais peu exprimée parce que la tradition veut qu'on ne commente pas la situation interne de notre pays, mais aussi parce que le danger est réel d'être accusé d'ingérence et donc de rajouter des problèmes. Il y a cependant de vraies inquiétudes en partie politiques et en grande partie économiques.
L'invité.
La reconstruction et le développement de la RDC au menu de la 10e édition d'Expo Béton RDC. Le coup d'envoi des travaux de ce forum sera donné demain mercredi à Kinshasa. Pour en parler, Radio Capi reçoit le promoteur d'Expo Béton, Jean Bamanissa Saïdi. Il évalue notamment les 10 années de ce salon dédié à la construction, aux infrastructures, à l'énergie en RDC. Jean Bamanissa s'entretient avec Jeff Ngoïmulonda.
Jean Bamanissa, bonjour.
Oui, bonjour.
Sur quoi repose cette édition? Quelle est sa particularité?
Écoutez, nous avons accumulé une bonne expérience. Nous sommes partis de 2016 à la première édition et avec toujours cette recherche de la normalisation, de la standardisation et du respect des règles dans le domaine de la construction. Nous avons constaté que les règles ne sont pas établies tant pour les travaux publics que pour les bâtiments. Vous voyez aujourd'hui les conséquences malheureuses qui ne font que s'accumuler de non seulement nos ouvrages, mais aussi nos villes qui sont en train d'être construites en désordre. Donc c'est un chaos urbanistique. Donc notre travail est depuis 10 ans de réveiller les consciences et de réfléchir avec les uns les autres pour trouver les voies et moyens. Et cette année, nous revenons sur un sujet qui est très ambitieux parce que nous ne devons pas rester sur les statu quo. Effectivement, le budget de notre gouvernement est peut-être passé de 4 à 12, 14, 15 milliards de dollars. Mais nous disons que la RDC a beaucoup de ressources pour mobiliser en cette période 100 milliards de dollars et les affecter dans les grandes zones et dans les projets qui peuvent permettre effectivement qu'il y ait des échanges commerciaux, qu'il y ait du travail, de l'emploi pour sa reconstruction. C'est les chemins de fer, ce sont les ports, ce sont les villes qui sont bien pensées. Et donc c'est un appel continuel. Vous verrez aussi que nous avons mis en place des think tanks au sein d'Expo Béton où nous demandons à ceux qui adoptent l'esprit Expo Béton de devenir membres et de s'organiser dans leur milieu. Think tank infrastructure et travaux publics, construction des bâtiments, aménagement du territoire et urbanisation.
Cela fait 10 ans que vous vous alertez toujours, mais rien ne change sur le terrain. Vous estimez que vous n'êtes pas fatigué d'alerter toujours?
C'est un gros travail et personne ne doit lâcher. C'est comme vous êtes journaliste, vous parlez de certains sujets qui ne sont pas, selon vos analyses, aussi accomplis. Cela se passe dans tout le milieu, même le pasteur à l'église se rend compte toujours qu'il doit toujours répéter la même chose. Ainsi est fait la vie, ainsi est fait la terre, ainsi sont faits les systèmes où il faut répéter jusqu'à ce que les normes soient mises en place, les règles, mais il faut continuer malgré qu'elles existent. On ne peut pas dire que tout ne va pas. Aujourd'hui, beaucoup de recommandations de Expo Béton sont suivies par différentes autorités. Nous en sommes heureux, mais peut-être que leur efficacité n'est pas encore atteinte. Et cela se passe par exemple dans le cas de la gestion de la ville. Nous avons des textes sur qui doivent permettre aux villes de fonctionner. Nous avons maintenant un ministère de la politique de la ville qui doit fonctionner pour permettre à donner corps aux villes.
En termes d'un petit bilan, l'évaluation que vous faites des précédentes éditions vous satisfait?
Écoutez, par rapport à la conscientisation, oui. Aujourd'hui, par exemple, sur la 10e édition, nous avons lancé un appel à la jeunesse sur la question de l'éducation, justement.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler les thèmes qui seront développés tout au long de cette 10e édition?
Nous reviendrons sur les différentes zones. Nous allons faire une approche par rapport à la composition un peu de notre pays sur les 6 grandes zones. On va parler du Grand Est, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Tanganyika. Les problèmes qui se posent là-bas, c'est l'interconnectivité rurale, les problèmes de l'énergie, le commerce transfrontalier. Et nous allons parler aussi avant cela de la reconstruction qui doit être faite. Quelles sont les leçons de reconstruction post-conflit dans certains autres pays, parce que nous avons besoin d'un genre de plan Marshall pour notre pays. Et nous avons le PNSD qui est le Programme National de Stabilisation et de Développement. Et nous aurons l'occasion d'écouter des hautes personnalités venant de la Corée du Sud, des États-Unis et d'autres pays, l'Éthiopie, l'Angola, etc., pour nous dire un peu comment ils ont mis aussi en place, après les événements chez eux, un système s'est développé. Et nous allons parler beaucoup de la formation professionnelle.
Jean Bamanissa, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité Jean Bamanissa, le promoteur d'Expo Béton, qui s'entretenait avec Jeff Ngoïmou-Londa. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal Parler du Matin, qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Poli Mouzalia. Sa mise en onde est assurée par Pierre Diassinois. Les informations sont en continu sur la radio de la paix à travers toutes nos plateformes digitales ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.